France Culture. Bonjour Anne Bouillon.
Bonjour.
On vous a quitté à la fin de l'épisode précédent, le deuxième. Ça y est, vous êtes dans votre cabinet d'avocate. Avocate pénaliste en droit des femmes. Alors déjà, un mot sur le terme de avocate pénaliste. Pourquoi on précise pénaliste, droit pénal ?
Oui, c'est ça, parce que je plaide et parce que je défends. Et parce que je défends devant les juridictions pénales, pas seulement, hein, devant les juridictions civiles aussi. Je fais du droit de la famille et du droit pénal. C'est les deux branches du droit qui occupent l'essentiel de notre contentieux. Mais avocate pénaliste, ça, on prend des repères. C'est quelque chose qui est connu.
Au barreau de Nantes.
Exactement.
Donc encore. On va presque s'arrêter sur... tous les termes, d'une certaine façon, de ce titre d'épisode « Avocate pénaliste en droit des femmes » aujourd'hui, puisque vous allez nous parler de votre métier au quotidien. Alors, je dis métier, mais dans le premier épisode, vous nous avez parlé d'engagement. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que c'est même plus qu'un engagement, c'est aussi une identité pour vous aujourd'hui.
Ah,
vous
ça
êtes
devenu.
Avocate.
Ouais, je suis avocate tout le temps. Je suis avocate jour et nuit, je suis avocate 24 heures sur 24, je suis avocate même lorsque j'ai pas ma robe. Ça veut dire que j'ai une lecture du monde et j'ai une lecture des choses qui est toujours du côté, alors peut-être de la contradiction, mais également, plutôt du contrepoint de vue. Et puis, avec l'idée de défendre les libertés, les droits de la défense, peut-être d'être là où pas grand monde naît. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qu'on a vraiment en commun avec mon mari, avec Franck Wozzeck, quand on entend des histoires ou quand il nous est donné à voir des choses qui sont choquantes ou révoltantes ou des procès s'organisent, on a toujours cette idée de qu'est-ce qu'on ferait en défense, comment est-ce qu'on défendrait celui qui est accusé, comment est-ce que quels axes de défense on dégagerait, cette volonté d'être voilà, aux côtés de celui ou de celle qui est en difficulté et qui doit affronter le monde entier. Et c'est vrai, y compris lorsque je défends des femmes victimes de violences. C'est-à-dire que les femmes victimes de violences, il faut pas croire qu'elles sont accueillies avec des brassées de roses et qu'l'institution judiciaire leur déroule le tapis rouge. Loin s'en faut. Ce sont des batailles à mener, renouvelées et... moi, j'aime être de ce côté-là, de celle qui va accompagner et défendre. Voilà, c'est avoir la défense chevillée au corps, je crois.
Vous racontiez dans l'épisode précédent l'histoire de cette jeune femme qui avait été violée par le fils aîné de la famille qui l'accueillait, entre guillemets, elle accueillait, hein, elle était bonne dans cette famille. Vous avez de fait, Anne Bouillon, débuté par la défense de femmes souvent étrangères. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de Nigérianes aussi dans votre oui. Parcours. On se souvient quand, enfin on se souvient peut-être pas, mais en tous les cas, en novembre 2018, vous avez obtenu quelques 100 000 euros pour une Nigériane acheminée en Europe à l'âge de 16 ans, qui avait été privée de nourriture, qui avait été privée de tous ses biens, de sa liberté, qui avait été séquestrée, frappée, et puis qui avait subi des rapports sexuels non consentis, de façon très euphémistique, on va dire ça comme ça. Les prostituées aussi, étrangères, mm-hmm. en situation irrégulière. Mm-hmm. C'est un hasard ou c'était une volonté de votre part de faire le lien avec ce que vous aviez fait précédemment et...
Ah, c'est pas du tout un hasard, en fait. C'est dans la droite ligne. Quand je suis arrivée à Nantes, j'ai travaillé rapidement avec Médecins du Monde, qui a une antenne importante à Nantes, parce que Nantes est un lieu d'exploitation des femmes et des prostituées étrangères. Et Médecins du Monde, avec à l'époque, à sa tête, Irène Aboudaram, qui... travaille toujours pour Médecins du Monde, sont venus me voir en me proposant de défendre, alors là, précisément une figure d'altérité absolue qui est la prostituée nigériane, anglophone, que l'on ne croise pas, si ce n'est à la nuit tombée dans les phares des voitures, qui voilà sont là des spectres comme ça qu'on croise rapidement et qui sont exploités de la manière la plus sordide qui soit et pour lesquels il faut engager un processus judiciaire et de défense et de réparation. C'était compliqué au départ, ne serait-ce que de trouver du langage commun avec ces femmes qui, voilà, parlent pidgin, qui est un anglais créole, qui n'est pas l'anglais d'Oxford, de trouver du langage commun avec ces femmes qui ont subi l'impensable, parfois l'innommable, souvent l'indicible, et créer un lien de confiance comme ça qui nous permet de cheminer ensemble sur le processus judiciaire, parce que évidemment, elles ambitionnent les institutions policières, judiciaires, y compris les avocats, d'abord comme des éléments dont il faut se méfier et avoir peur. Je me rappelle, voilà, de beaucoup de ces femmes et moi et ma collaboratrice Céline Le Goff, on passe beaucoup de temps à défendre ces femmes, y compris récemment, et ça nous honore et ça nous tient vraiment à cœur. Vous avez parlé d'indemnisation, mais c'est très important l'indemnisation de ces femmes. Ça leur permet d'inventer une autre vie possible pour elles et leurs enfants. Et voilà, on a créé de la jurisprudence, on a créé ce contentieux-là, on continue de le pratiquer. Et moi, j'ai l'impression qu'elle synthétise comme ça à elle seule tout ce que le corps des femmes peut endurer de pire, c'est-à-dire qu'elles sont envisagées comme des esclaves, comme des marchandises, elles sont trafiquées, transportées, soumises par des rites vaudous, ce qu'on appelle le juju, et puis ensuite placées sur les trottoirs de nos villes sans que finalement personne ne trouve pas grand-chose à y redire, jusqu'à ce qu'elles aient ce courage absolu de déposer plainte contre les réseaux qui les ont exploitées. Donc oui, on les défend aussi bien qu'on peut, et voilà, ça nous tient beaucoup, ça.
Et puis vous avez élargi votre clientèle, si bien que aujourd'hui, après 25 ans de pratique, vous défendez toutes ces femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, je le disais en tout genre, de violences conjugales, de féminicides également. On y reviendra, et notamment vous nous parlerez de cette parole des femmes dans le quatrième temps, mais pour aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez de votre façon de travailler. On est justement dans votre cabinet, là, dans votre bureau, au sein de votre cabinet, cabinet 100% féminin. Est-ce que vous nous décririez déjà cette pièce où nous sommes, comment vous avez choisi de la décorer ou de ne pas la décorer? C'est assez sobre, mais juste parce qu'elle me frappe et elle me regarde depuis le début de ces entretiens. Derrière vous, Anne Bouillon, se trouvent deux portraits de femmes qui sont en fait face à vous quand vous êtes assise à votre bureau. C'est deux portraits de femmes, deux photos en noir et blanc. Est-ce que vous nous parlez déjà de ces deux femmes-là qui... Alors, il y en a une qui vous regarde et l'autre qui a les yeux baissés. Elles vous inspirent, ces femmes?
Ah oui, elles m'inspirent et puis elles me protègent peut-être d'une certaine manière. Ce sont deux grandes photographies en noir et blanc que j'ai trouvé au musée de la photographie de Marrakech. Ce sont deux femmes sans doute berbères, des photographies qui ont dû être prises au début du siècle dernier, de deux femmes magnifiquement parées, maquillées, qui ont pour l'une ce regard droit qui voilà ne me quitte pas, et puis pour l'autre qui a cette posture un peu plus douce peut-être, et qui incarne pour moi des images des icônes de la féminité qui sont du côté de la puissance et de l'affirmation. Et puis dans ce bureau, il y a quelques meubles, des fauteuils plutôt confortables, une sculpture qui a été faite par une amie qui représente une femme également, un mandala donné par une autre amie, des photographies de ma fille, le code civil, le code pénal, évidemment.
Gros tome de livres rouges.
Oui,
hein.
Oui, et puis une petite table où j'empile les livres avec beaucoup de littérature féministe.
Déclaration des droits des femmes.
Absolument.
Illustré.
Et puis il y a le bouquin de Christelle Tarot, l'historienne sur les féminicides, de Camille Froidevaux-Métairy, philosophe que je lis beaucoup aussi.
Frida Kahlo,
qui est une peintre qui est très chère à mon cœur, qui voilà, là aussi représente la capacité à la transcendance, y compris des épreuves existentielles. Quelques plantes vertes et voilà. Et
ça un suffit. Livre de Gisèle Halimi. Je vois pas King Kong Theory de Virginie Despentes, qui est pourtant un livre important pour vous, mais il est là.
Aussi, il devrait être là. C'est que je l'ai prêté à quelqu'un, mais il est là ou il est dans ma bibliothèque à la maison. Mais ce cabinet, qui est, vous l'avez dit, 100% féminin, il y a des chiens aussi qui sont là avec nous souvent. Il y a le chien de Nathalie, ma secrétaire, celui de Sonia, ma collaboratrice, et puis il y a le mien, la mienne plutôt, qui est là de temps en temps. C'est un lieu, presque un lieu refuge. Il y a une cuisine, il y a une douche, il y a de quoi changer des enfants, il y a un lieu de pour les enfants pour qu'ils jouent, il y a des jouets en bois, des puzzles, des poupées. Voilà, c'est important de pouvoir prendre un temps d'arrêt dans ce lieu et c'est important que les femmes qui viennent nous voir puissent s'y sentir à l'abri, en sécurité. Ça a été pensé comme ça.
Comment procédez-vous ? Est-ce que par exemple vous choisissez vos clientes ou est-ce que comme le dit le médecin dans Le cœur des femmes de Martin Winkler, que je crois que c'est un autre livre que vous aimez beaucoup, vous êtes choisie par elle.
C'est une rencontre, hein, assurément. C'est une rencontre et c'est une rencontre qui se fait autour de choses subtiles. Ça peut être quelques mots, ça peut être un silence, ça peut être un regard, ça peut être un pacte qui se noue autour de d'un langage commun qu'on va dégager. Ça m'a pris du temps, moi, à pouvoir entendre les femmes, les écouter. Ça m'a pris du temps à me faire entendre d'elles. Ça m'a pris du temps pour trouver le bon endroit pour avoir une communication comme ça qui soit fluide et qui soit pas surplombante, qui soit juste. Et parfois, des fois, elle ne l'est pas et c'est ma responsabilité. Mais c'est une relation comme ça, une dyade qui, l'espace d'un temps défini, est extrêmement puissante. Ce sont des femmes que je ne connaissais pas avant qu'elles poussent la porte de mon bureau et qui, assises à la place que j'occupe actuellement, me disent le plus intime de l'intime, parfois ce qu'elles n'ont confié à personne avant moi. Et j'ai comme ça le privilège d'avoir une plongée directe et sans filtre au cœur de ce qu'elles sont. Ça m'honore beaucoup et ça m'oblige beaucoup également.
Vous avez des rituels d'accueil, des coups des femmes, par exemple quand elles entrent, une fois qu'elles ont poussé la porte, un de votre cabinet, deux de votre propre bureau et qu'elles s'assoient en face de vous, qu'est-ce que vous leur dites ?
Que puis-je pour vous ?
Toujours.
Toujours.
Vous commencez par là.
Oui, je crois que ça me rassure aussi, moi, en fait. Ça met les choses au bon endroit. Je ne dis pas « Pourquoi est-ce que vous venez me voir ?» Je dis « Que puis-je pour vous ?» Et ça leur donne l'occasion de pouvoir soit verser dans une parole qui va être nourrie, abondante, voilà, que je reprendrai dans un deuxième temps, soit elles me disent « je ne sais pas ». Et à ce moment-là, je déroule quelques questions. Je leur laisse toujours un temps de parole comme ça, mais ça c'est quelque chose que j'ai forgé à l'aune de ma propre expérience. Hein. Je leur laisse toujours un temps de parole spontané comme ça, et puis ensuite je leur dis « bon, je vais vous poser quelques questions et puis on va revenir à ce qui vous occupe ». Et je prends des renseignements, j'ai quelques questions fermées et puis on retourne au cœur du sujet de ce pourquoi elles sont venues me voir. Et les entretiens dépassent rarement une heure. Au bout d'une heure, on a souvent fait le tour et puis il y a aussi une fatigue qui peut s'installer. Mais au bout d'une heure, on sait à peu près où on va aller ensemble. Peut-être que ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'il y a des entretiens qui ne sont que des consultations où elles viennent pour prendre des perspectives, avoir des conseils, faire le point sur une situation. Et puis, trois points de suspension, c'est « to be continued » ou pas. Et puis, il y a des situations où il est urgent de prendre des mesures, y compris sur le plan judiciaire. Il est urgent de saisir un juge. Il est urgent d'avoir une protection pour ces femmes et souvent pour leurs enfants. Et à ce moment-là, on définit ensemble des objectifs qui peuvent ne pas être ceux avec lesquels elles venaient me voir ab initio. Hein. Parfois, certaines me disent « je ne veux plus jamais que le père de mes enfants les voit ». Des choses qui paraissent pas corrélées à la situation qu'elles vivent. Ce que je veux dire, c'est que on trouve ensemble des compromis et des choses qui sont réalisables et faisables et qui sont le plus adaptées possible. Et quand on trouve ce langage commun-là, alors le pacte dont je vous parlais se scelle et on avance sur le processus judiciaire. Et puis parfois, on n'arrive pas à s'entendre parce qu'on est deux êtres humains et que les choses ne passent pas. Et c'est pas grave, c'est jamais grave. En fait, moi, ce que j'ai appris à faire, c'est de remettre toujours la décision entre les mains de celle qui vient me voir. Je ne suis pas décisionnaire, j'éclaire, je montre les perspectives et les possibilités. Et puis, si elle souhaite des choses que moi, je pense être dangereuses pour elle ou inatteignable, alors je leur dis que ce ne sera pas possible pour moi. Et rien de tout ça n'est grave.
Est-ce que, justement, il y a des moments où vous dites, en répondant vous-même à la première question que vous leur posez, que vous ne pourrez rien. Alors peut-être que vous le dites in petto, pour vous-même, mais que vous ne pourrez rien pour ces femmes. Ça vous est arrivé de vous dire, bon, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas à la défendre dans ce cas-là.
C'est compliqué, la question que vous me posez. J'ai envie de dire que très souvent, ce que je constate, la première chose que je peux pour elles, c'est les écouter, les regarder, les entendre, donner du crédit à ce qu'elles disent, accueillir leurs paroles de manière digne, et que c'est déjà beaucoup, pas nécessairement suffisant, mais que c'est déjà ce qu'elles viennent chercher, souvent. Après, qu'est-ce que je pourrais pour elles ? Est-ce que je pourrais ne pas les défendre ? Encore une fois, quand elles posent des demandes qui ne sont pas ni légales, ni réalistes, alors je leur dis et je leur explique pourquoi et on essaye de retrouver quelque chose qui soit de l'ordre du commun. Et puis, il y a des situations où effectivement, je ne peux rien pour elles, mais aussi pour des raisons légales. Lorsque je reçois une femme qui a subi des faits de viol dans sa tendre enfance, qui, par le jeu de l'amnésie traumatique, s'en rappelait pas et veut maintenant déposer plainte alors que les faits sont prescrits, eh ben, ce que je peux pour elle, c'est lui expliquer comment est-ce que la loi fonctionne. Voilà, lui expliquer que sa cause devant une juridiction ne pourra pas être entendue pour des raisons qui tiennent à l'application du droit. Mais vous voyez, je ne me dis pas je ne peux rien pour elle, en fait. Je l'informe, je lui donne des éléments de compréhension de sa situation, j'espère en tout cas.
Et une fois que ce pacte est scellé entre vous, que vous prenez le dossier de cette femme à bras-le-corps et que vous dites « je vais la défendre, donc au final je vais plaider pour elle », entre le moment où vous l'écoutez, qui manifestement est la première étape, et la dernière qui est la plaidoirie, que se passe-t-il ?
Eh bien, il y a tout le processus judiciaire qui peut recouvrir plein de réalités différentes, saisir un juge des affaires familiales, demander protection devant un juge des enfants, solliciter une ordonnance de protection lorsqu'il y a des éléments de danger avérés, travailler avec des assistantes sociales, les mettre en rapport avec des psychologues qui peuvent les accompagner, l'enquête qui peut prendre différentes formes, ça peut être une enquête préliminaire, ça peut être une information judiciaire, et puis le procès qu'on prépare ensemble, cette échéance, ce point d'orgue qui est extrêmement important et auquel voilà, on consacre beaucoup de temps à la préparation, là aussi, avec d'abord un rôle de décodeur de la situation. Je vais lui expliquer qui fait quoi, qui dit quoi, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'une sanction pénale, qu'est-ce qu'elle peut attendre, qu'est-ce qu'elle ne peut pas attendre. Et puis, vous savez, un procès, c'est aussi un exercice de communication. Donc, nécessairement, moi, j'ai envie que les femmes que je défends, elles soient entendues. Et donc, je les prépare à ça. Je suis une passeuse de mots, M-O-T-S, et donc je veux que les mots de ma cliente, y compris lorsqu'elle n'en a plus, eh bien, soient perçus par celles et ceux qui vont juger la situation. Voilà, il y a cette phase-là du procès devant le juge des affaires familiales ou devant le juge pénal, qui est une phase extrêmement importante, et notamment devant les cours d'assises, on est sur un temps suspendu. Un temps où plus beaucoup de choses n'existent pour moi et ailleurs que le temps de l'audience. Et c'est terrible de dire ça, hein, parce que j'ai aussi une vie ailleurs, j'ai une fille, j'ai un mari. Mais lorsque je suis devant une cour d'assises, et tous les avocats pénalistes vous le diront, alors je suis totalement et à 100% dans ce que je fais. Ça m'occupe et ça m'habite entièrement. Et c'est aussi pour ça que c'est un moment tellement particulier et tellement singulier. J'en connais pas d'autres. Cet espace-là de la cour d'assises, qui est un espace en danger, hein, parce qu'il y a de moins en moins de procès aux assises, il y a des cours criminelles qui sont venus remplacer les assises. On n'a plus de jurés populaires, mais ce sont des juges professionnels qui jugent et qui jugent de plus en plus vite et qui jugent de plus en plus de manière de plus en plus ramassée. Et bien, ce temps devant la cour d'assises est un temps où, en unité de temps, en unité de lieu, on va se transporter ailleurs avec cette ambition de toucher au plus vrai la vérité de ce qui s'est passé avant. Et voilà, par l'oralité des débats, par le jeu du contradictoire, par le jeu des questions, des réponses, de ce qu'on vient dire et comprendre devant une cour d'assises, alors on arrive parfois à faire œuvre de justice et c'est vraiment extraordinaire.
Plaider, c'est l'essence du métier ? C'est l'essence de votre métier, Anne Bouillon ?
C'est quelque chose dont je me lasse pas.
C'est déjà ça.
Ouais,
après 25 ans, c'est déjà ça.
Mais vous savez, c'est ce moment où le président ou la présidente me dit « Maître, vous avez la parole ». Et c'est ce moment où je me lève. Parfois, je fais quelques pas jusque à la barre. Et ce moment où je plante mon regard dans celles et ceux qui me font face et je saute dans le vide. Et je démarre. Et je plaide. Et j'ai cette farouche envie d'être à la hauteur de la vérité de celle qui est derrière moi et qui me regarde et qui m'écoute. Parfois d'ailleurs, je me retourne et on échange un regard, y compris pendant ma plaidoirie. Ça me permet de prendre la mesure et de savoir si je suis au bon endroit. Et puis je regarde celles et ceux auxquels je parle, les jurés d'assises. Et voilà, on essaye tous et toutes de faire ça, les avocats pénalistes, d'être le plus convaincant. Et il faut une bonne plaidoirie, vous savez, c'est une plaidoirie où on met tout de soi-même sans parler de soi. J'essaye vraiment de faire ça.
Vous dites que c'est un exercice de communication, la plaidoirie, en tous les cas le procès, c'est aussi une mise en scène, c'est presque théâtral. Est-ce que c'est aussi un acte politique ou est-ce que vous le vivez comme un acte politique?
Ah oui, nécessairement. La défense est politique, le droit est politique, les procès doivent l'être et c'est pour ça qu'ils doivent se rendre portes ouvertes d'ailleurs. Et que dans l'immense majorité des cas, si ce n'est dans la totalité des cas, les femmes auxquelles j'explique qu'elles ont intérêt à ce que l'audience soit publique et qu'il n'y ait pas de huis clos, adhèrent à cette position et comprennent l'intérêt de cette position, parce que ça veut dire qu'au-delà de leur situation personnelle et individuelle, alors ce qu'elles ont vécu pourra servir à quelque chose d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue pour les autres victimes. Récemment encore, une femme m'appelait parce que elle avait entendu parler d'un procès d'une jeune femme que j'ai défendue face à son agresseur. Et cette jeune femme qui s'appelle Manon a eu un courage absolu en faisant en sorte que l'audience soit publique. Il y avait des lycéens qui étaient là, il y avait des collégiens qui étaient là. Cette jeune femme m'a appelée en me disant « Mais moi, j'ai entendu parler de ce procès et j'ai subi la même chose de la même personne, ce qu'elle avait tue jusqu'à présent. » Vous voyez, elles sont vraiment très nombreuses, ces femmes que je défends, à vouloir que, au-delà de leur situation individuelle, ça serve à quelque chose. Ça serve à quelque chose de manière systémique et qu'il n'y ait plus d'autres victimes, mais que les autres femmes se sentent autorisées à parler. C'est exactement ce qu'a fait Gisèle Pelicot au procès des viols de Mazan. Elle a transcendé sa singularité et c'est à toute la société qu'elle a demandé de changer et de prendre la mesure de la réalité de ce que les femmes subissent. Donc oui, les procès sont politiques, et oui, mes plaidoiries le sont tout autant. C'est-à-dire que dans mes plaidoiries, ça fait belle lurette que j'insuffle des éléments tirés de mes lectures en sociologie, en philosophie, en histoire. Alors dès lors que j'arrive à comprendre et manier les concepts, c'est pas toujours le cas, mais lorsque j'arrive à donner comme ça un peu d'étayage et de corpus théorique à des situations individuelles, ça me permet de dire au juge, et y compris à l'accusé, voilà, c'est une situation qui est jugée, mais en vérité, comme le faisait Gisèle Halimi, c'est toute la société qui est aussi appelée sur le banc des accusés. C'est ça ma conception de la défense.
Mais là, c'est plus des personnes que vous défendez, c'est une cause que vous défendez.
C'est des personnes qui incarnent une cause, ou ce sont des causes incarnées par des personnes. Il y a ces deux dimensions-là. Je dépasse la simple casuistique. C'est pour ça que je, vous avez raison. Je suis une avocate de cause, hein, je crois.
C'est ça que ça veut dire.
C'est ça que ça veut dire.
Et ça veut dire aussi, et c'est pour ça aussi, sans doute, Anne Bouillon, que vous ne défendez plus les auteurs d'agressions sexuelles, mais vous ne défendez plus que les victimes. C'est pas nécessairement des femmes, c'est beaucoup des femmes, mais vous ne défendez plus les auteurs. Et est-ce que c'est pas le propre d'un avocat de défendre tous les côtés?
Ouais, je comprends que vous posiez la question. C'est une question que je me suis posée longtemps. Le fait de renoncer à défendre des auteurs ou des mises en cause, ça a été un choix qui a été coûteux, hein, parce que je suis avocate pénaliste et que, a priori, j'ai vocation à défendre tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai défendu pendant longtemps des mises en cause dans des dossiers de viol, d'agression sexuelle, de pédophilie. Et je l'ai fait là aussi sans tergiverser et avec tout mon engagement. Mais précisément parce que j'assume le fait d'être une avocate de cause et d'une avocate engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes et d'abord au soutien de la lutte contre les violences faites aux femmes, il y a une équation que j'ai plus su résoudre à un moment donné. C'est-à-dire que je ne pouvais plus avoir cette parole politique dont on parlait il y a un instant, tout en assumant la défense des auteurs. Peut-être aurais-je dû le faire. En tout cas, je ne savais plus le faire. Et j'estimais que d'autres le feraient mieux à ma place. Et j'ai une tellement haute opinion des droits de la défense et de la nécessité de ce que chacun soit défendu de la meilleure manière possible que j'ai estimé que ces personnes-là seraient mieux défendues par d'autres. Là où je ne fais aucun compromis, c'est sur les droits de la défense. C'est-à-dire que je suis capable, devant un juré d'assises, de dire au juré d'assises « mais si vous avez un doute, acquittez ». Je suis capable de faire en sorte que les droits de la défense, même s'ils doivent préjudicier aux intérêts immédiats de la personne que je défends, prennent le pas sur le reste. Je ne renonce à rien, je crois, en termes de... comment dire ? Je ne suis pas procureur de la République, vous voyez. Je ne requiers jamais une peine lorsque je plaide pour les victimes. Je ne me substitue pas à l'accusateur public. Je reste à ma place d'avocate de partie civile. Je n'estime pas nécessairement que la partie civile doit avoir exactement les mêmes droits que la défense dans le cadre du procès pénal. Un petit exemple. Vous savez ou vous ne savez pas que devant une cour d'assises, on peut récuser des jurés. La défense peut récuser des jurés lorsqu'ils sont tirés au sort. Le ministère public peut récuser des jurés lorsqu'ils sont tirés au sort. La partie civile ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le procès de la partie civile, c'est le procès de l'accusé. Eh bien, voilà un droit que je ne revendique pas pour la partie civile. Donc, je ne confonds pas les choses. Ce n'est pas le procès de la partie civile. La partie civile est là pour faire valoir ses droits devant une juridiction, mais c'est le procès de l'accusé. Et donc, voilà, je crois que j'ai renoncé à rien en termes d'éthique de la défense. Et pour autant, j'ai une telle liberté de parole à la place qui est la mienne que c'est un choix que j'ai fait que je ne regrette pas.
C'est pas parce que c'est plus facile ou, disons, moins difficile. Je vous pose cette question, Anne Bouillon, parce que je me souviens, puisqu'il est beaucoup question du procès Mazan, j'ai envie de dire évidemment, dans nos entretiens, de la colère populaire contre Béatrice Zavarro qui a défendu Dominique Pellicot, l'autre côté. C'est très courageux quand même, quand on est avocate, d'aller défendre quelqu'un comme ça. Voilà, est-ce que c'est pas plus facile d'avoir le beau rôle, d'être du côté des victimes qu'on défend ?
Peut-être, mais moi c'est un exercice que je trouve pas facile. Hein. J'entends ce que vous dites, hein. Vous savez, j'ai souvenance de Gisèle Halimi en 78 à Aix-en-Provence, pour laquelle c'était loin d'être facile, qui était menacée de mort, qui essuyait des crachats, des insultes. Les choses ont changé. L'exercice qui est le mien n'est pas aussi périlleux que ce qu'elle a fait en 78. Mais je peux vous dire qu'être identifiée comme avocate et féministe n'est pas une posture de très grand confort, y compris dans le prétoire, y compris à l'endroit de mes confrères, que je peux aussi... essuyer des remarques acerbes. Donc, non, c'est toujours pas très confortable et toujours pas très facile.
Merci Anne Bouillon. On continue cette discussion demain avec le quatrième épisode. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Anne Bouillon. Réalisation Anne Pérez-Franchini. Prise de son Geoffrey Marianne. Chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.